Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du grand face-à-face de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec vos rendez-vous du samedi. Dans un instant, la joie de retrouver le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat du week-end autour des relations compliquées, tendues entre la science et la politique, entre le discours scientifique et le discours politique et l'espace médiatique. On a vu s'affronter des temporalités différentes, souvent contradictoires ces derniers mois. D'un côté, le temps de la recherche, de l'autre des décisions politiques, sanitaires qu'il a fallu, qu'il faut encore prendre dans l'urgence et en méconnaissance de cause. L'expression, on la doit à notre invité. Il est physicien, philosophe des sciences. Il publiait récemment un texte d'intervention dans la collection Tract de Gallimard. Texte intitulé « Le goût du vrai ». Avons-nous retrouvé le goût du vrai ? C'était au début de l'été. Il nous dira ce qu'il pense de ces quelques-unes des leçons de la crise sanitaire. Les avons-nous tirées ou pas encore ? Étienne Klein viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Et on démarre avec le duel en compagnie de la directrice de Marianne, Natacha Polony, et du directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux
Bonjour.
De vous retrouver. L'été s'est bien passé, vous avez l'air en très grande forme, Gilles.
Merveilleux.
Et vous, Natacha ?
Mieux serait indécent.
On prolonge les vacances alors, ou c'est la rentrée ?
Je crains que ce soit la rentrée.
Malheureusement.
Écoutez, ça y ressemble.
Écoutez ça d'ailleurs.
Le virus est là. Mais vivre ! La vie doit être plus forte. Vivre, ça veut dire que nous allons tout faire pour que les Français reprennent le travail normalement, reprennent l'école normalement, reprennent leur vie sociale, culturelle, le plus normalement possible. Bien sûr, en se protégeant. Mais le pire de tout, vous m'entendez bien, c'est qu'on s'enfonce parce qu'on ne reprend pas l'activité dans une crise économique et sociale qui serait beaucoup plus dangereuse que la crise sanitaire.
Le Premier ministre Jean Castex, qui était l'invité de la matinale de France Inter cette semaine. Natacha, comment qualifier le climat de cette rentrée ? Quand on écoute le Premier ministre, il y a d'un côté la vie qui doit être plus forte, la vie qui doit reprendre après les vacances et les vacances qui sont donc maintenant définitivement terminées. Et puis d'un autre côté, toujours ce son inquiétant, cette petite musique autour du danger, autour de la crise qui n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il emporte d'après vous ?
Ce qui me frappe avant tout, ce sont les effets de balancier. C'est-à-dire que nous avons passé un printemps dans la peur, dans l'angoisse, et on nous a expliqué qu'il fallait avoir peur. Nous avons passé un été à entendre les discours, même les micro-trottoirs qui ont été faits dans tous les médias, où les gens expliquaient « Ah oui, mais alors après le confinement, il faut vivre ». On a même eu des discours officiels sur le thème « Oui, il faut comprendre tous ces gens qui ont été confinés, ça a été une souffrance, donc là maintenant, ils ont besoin de respirer, de se laisser aller ». Et se laisser aller, ça veut dire tous ensemble, coller les uns aux autres, sans masque ni aucune précaution. Et de nouveau, c'est la rentrée, ça y est, on est de nouveau dans un discours de quasi panique. Je pense que la situation, quand on regarde les chiffres, c'est-à-dire non pas seulement le nombre de cas positifs qu'on trouve, mais le rapport entre le nombre de tests et le nombre de cas positifs, ce qui me semble plus parlant,
ouais.
On voit bien qu'il y a un retour épidémique, il ne faut pas s'en étonner, mais cette espèce d'excès permanent me semble toujours assez étonnant. Et j'ajoute une chose, c'est que l'extrait qu'on vient de passer de Jean Castex est tout à fait intéressant, puisque le Premier ministre a raison de dire que la crise économique qui arrive, parce qu'elle arrive là maintenant, risque d'être plus tragique encore que la crise sanitaire. À ceci près que, par souci de communication politique, le gouvernement a décidé de repousser l'annonce du plan de relance parce qu'on ne peut pas tenir en même temps un discours de prévention sanitaire et un discours économique. Moi, les bras m'en tombent.
Les bras vous en tombent parce que vous pensez que les deux sont possibles ?
Parce qu'il me semble que s'il y a une urgence économique et elle est là, je ne vois pas pourquoi on repousse d'une semaine sous prétexte qu'il faut expliquer aux gens qu'il faut porter des masques et se protéger.
Gilles Finkelstein.
Je crois que nous ne reprenons pas la vie tout à fait normalement. Moi, si je essayais de caractériser ce moment, nous sommes dans une espèce d'entre-deux. C'est comme si nous avions vécu, pour faire image, un tremblement de terre au mois de mars dernier, et que là, nous attendons la réplique. Et nous sommes dans cette attente de la réplique, en espérant que la réplique économique ne sera pas trop forte, mais on sait qu'elle va arriver, et en espérant que la réplique sanitaire sera maîtrisée. Donc, on est dans cet entre-deux et donc dans un moment qui est un moment d'incertitude et qui est un moment d'incertitude pour la France, mais quand on regarde ce qui s'est passé cet été, qui est un moment d'incertitude pour le monde, on voit que la pandémie a progressé dans beaucoup d'autres parties du monde et notamment en Amérique latine, on est dans l'incertitude politique avec les États-Unis, on en parlera tout à l'heure, on est même dans l'incertitude sur tous les confins de l'Union européenne quand on regarde la situation en Turquie, en Biélorussie ou au Liban. Donc je crois que ce qui caractérise cette rentrée, c'est l'incertitude et cette espèce d'entre-deux.
On va parler de ce qui se passe dans les écoles, Natacha, puisque Marianne consacre un dossier à la question cette semaine et que la rentrée des classes est prévue la semaine prochaine dès mardi pour les petits. Que pensez-vous de l'idée, malgré tout, de rendre le masque obligatoire dans de grandes villes, dans de très grandes villes, évidemment dans la capitale Paris, dans toute la ville? Vous comprenez le discours de ceux qui s'en inquiètent ou de ceux qui résistent?
Je pense que nous avons débattu déjà amplement de tout cela au mois de mai, au mois de juin. Nous avons eu des discussions là-dessus.
Oui.
Et j'ai l'impression que là non plus, nous n'avons pas avancé. Pourquoi ? Parce que, bien sûr qu'il y a la dimension scientifique, même logique tout simplement. En effet, en extérieur, quand c'est aéré, etc., le masque ne sert à rien. Le problème est que nous avons vu cet été à quel point, en fait, quand on ne porte pas le masque, on oublie tout de suite cette pandémie. Et ce que nous avons vu, c'est des gens qui, en fait, avaient envie d'oublier. Mais du coup, le fait de tout simplement porter un masque qui rappelle qu'il est nécessaire d'avoir quelques gestes de précaution ne me semble pas si malsain. Et je ne trouvais rien de plus stupide que la décision du préfet de police de Paris de rendre le masque obligatoire dans certaines rues et pas dans d'autres, ce qui faisait que les Parisiens étaient obligés de se promener avec un plan de Paris.
Oui.
Et que personne ne pouvait savoir exactement à quel endroit il fallait le porter ou pas. Au moins, les choses sont claires, c'est profondément pénible. Là, je parle à titre individuel, ça va m'enquiquiner, mais je vais le faire quand même, avec l'idée que je comprends la logique d'ensemble et que j'aurais préféré que cette obligation soit mise en œuvre dès le 11 mai, au moment où c'était socialement beaucoup plus acceptable et accepté.
Gilles,
je comprends que la priorité soit d'essayer de retrouver de la confiance. Et c'est une priorité à la fois d'un point de vue sanitaire, parce qu'il faut que les mesures qui soient proposées ou imposées soient appliquées, et aussi d'un point de vue économique, parce que un des effets de cette crise est que vous avez 100 milliards d'euros que les Français ont épargnés de manière forcée au départ, et qui est aujourd'hui une épargne de précaution, et qu'il faut réinjecter dans l'économie. Donc, il faut trouver les moyens pour redonner confiance. Est-ce que le port du masque peut être un de ces moyens? Le gouvernement privilégie la lisibilité sur l'acceptabilité. La lisibilité parce que c'est vrai que quand il fallait se promener dans Paris avec un plan pour savoir dans quelle rue il faut avoir le masque, c'est incompréhensible et donc ça ne marche pas. En revanche, est-ce que cette mesure sera acceptée dans sa généralité? C'est là où on va le voir parce que...
On peut en douter.
On peut en douter ou pas, je ne sais pas, ça est l'avenir qui le dira. C'est sûr qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez l'impression d'être à l'extérieur, qu'il n'y a pas grand monde autour de vous et que le port du masque est une contrainte, mais sans doute cette contrainte est-elle préférable au confinement? Enfin, même pas sans doute, certainement.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Quadrature du cercle et pieds dans le tapis, c'est le titre d'un dossier de Marianne, dossier consacré à la rentrée scolaire. Et jeudi, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale rendait public un nouveau protocole sanitaire pour accueillir les élèves, pour reprendre les cours. Les syndicats de profs, notamment, ne sont pas satisfaits. Vous qui connaissez bien les questions scolaires, Natacha, c'est assez étonnant pour vous de voir à quel point ce protocole sanitaire a mis du temps à être élaboré, comment on a évolué entre la reprise des cours à la sortie du confinement et ce qui se passe en cette rentrée?
Je pense que là aussi, il faut essayer d'être mesuré, de ne pas tomber à bras raccourcis sur le ministère de l'Éducation nationale, tout en se disant en effet qu'après tout, ce protocole avait toutes les vacances scolaires pour être mises en place et que les incertitudes qui demeurent sur des sujets essentiels ne sont pas minimes. C'est-à-dire que la question de savoir comment exactement agira un chef d'établissement quand il y aura un cas détecté? Qui sera testé? De quelle manière? Qui doit-on isoler au sein de l'établissement pour éviter la contamination? Tout cela est resté flou très très longtemps. Jean-Michel Blanquer, cette semaine, est intervenu pour lever certains flous sur les questions de cantine aussi. Mais il faut bien admettre aussi que ces choses-là sont très compliquées et qu'en effet, il n'y a pas de solution parfaite. Et
il n'y a pas de solution parfaite.
Parce que, par exemple, sur la question de la cantine, on a tous conscience que ça va être que s'il y avait circulation du virus, si tant est qu'on prouve que les enfants sont plus ou moins vecteurs, enfin bon, ouais. On a plein d'inconnus, mais de fait, la cantine est un lieu où l'on ne porte pas le masque, où les enfants sont côte à côte, et on ne peut pas les faire déjeuner à 10h du matin ou à 16h. Donc c'est compliqué. Le problème est l'attitude aussi de certains syndicats enseignants qui, face à cette complexité, jouer le maximalisme, on va le dire. Moi, quand j'entends le principal syndicat expliquer qu'il faut reporter la rentrée d'une semaine, je pense qu'il se tire une balle dans le pied et qu'il tire une balle dans le pied de tous les professeurs, parce que il me semble que l'urgence, c'est de rappeler que certes, il y a une crise sanitaire, que certes, il y a des risques, mais que le pire risque, c'est de ne pas scolariser les enfants. Certains sont perdus depuis le 13 mars dernier. Oui. Ce sont en général d'ailleurs ceux qui auraient le plus besoin de l'école. Donc l'urgence, c'est de rappeler que l'école, c'est pas un lieu juste où les enfants voient leurs copains, c'est pas un lieu de garderie parce que les parents travaillent, c'est un lieu de transmission des savoirs, et que ça, c'est la mission la plus noble qui soit, et que donc il y a urgence à cela.
Gilles ?
Oui, il y a deux questions. Sur la question de la reprise, je partage à 100% ce que vient de dire Natacha. C'est très important que la reprise de la scolarité ait lieu. Quand on regarde autour de nous dans les autres pays européens, à l'exception peut-être de l'Italie, la reprise a lieu, après dans des conditions qui sont différentes selon les pays, avec le port du masque ou pas. Mais j'avais hier, pour discuter de cette émission, des amis qui sont aux États-Unis, dans lesquels, notamment à Washington, dans lesquels il n'y a pas de reprise des cours, et il n'y aura pas de reprise des cours avant longtemps. Et le désarroi dans lequel sont plongés non seulement les parents, mais les enfants qui sont isolés maintenant depuis des mois, va produire des drames absolument considérables. Donc il faut que cette reprise ait lieu. Après, sur la question du protocole, Natacha disait, il n'y a pas de solution parfaite. De fait, il n'y a pas de solution parfaite. Je crois surtout qu'il n'y a pas de solution unique. Je disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est la confiance. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux acteurs de l'éducation.
Mais vous faites confiance à un ado de 14 ans qui est en quatrième? Ou de 13 ans?
Non, on fait confiance aux adultes qui l'encadrent et dont c'est le métier, et qui sont a priori...
Et comment les punir d'ailleurs? Dans la rue, ça coûte 135€ de ne pas porter son masque. À l'école, qu'est-ce que va subir un enfant qui ne le porterait pas?
La question de la punition se pose à l'école pour à peu près tout. Comment est-ce que vous sanctionnez un enfant qui ne respecte pas les règles? Et je pense... Pour ma part, j'ai entendu moi-même, quand j'étais en institut de formation des maîtres, la sanction est un échec de votre pédagogie. Moi, j'ai un formateur qui m'a sorti ça. Non. Non, absolument pas. Je pense que la sanction fait partie de la pédagogie, qu'il faut inventer des sanctions intelligentes en fonction de la faute, et que, parfois, la bonne vieille sanction, bête et méchante, c'est aussi efficace.
Gilles.
Écoutez, ça fait longtemps que je ne suis plus très longtemps que je ne suis plus enseignant, et je l'étais à l'université, donc là, cette question ne se posait pas dans ces termes-là. Je pense malgré tout que réussir à faire accepter, c'est vrai pour l'ensemble de la population, mais c'est vrai aussi faire comprendre la logique, c'est quand même ça qui est le point
sûr.
De départ. Hein.
On est bien d'accord.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Votre vote dira si nous allons continuer à protéger les Américains qui respectent la loi, ou bien au contraire si nous allons laisser régner les anarchistes, les agitateurs et les criminels qui menacent les bons citoyens. Cette élection dira si nous allons continuer à défendre notre mode de vie américain, ou bien si nous laissons les radicaux le démanteler et le détruire.
Donald Trump, vous avez évidemment reconnu la voix du président américain. Donald Trump, défenseur du mode de vie américain, de l'American way of life, comme on dit en bon français. Et Donald Trump qui acceptait formellement jeudi soir l'investiture du parti républicain pour se présenter à un second mandat. Et il se présente comme un rempart face au candidat démocrate Joe Biden, qualifié de fossoyeur de la grandeur de l'Amérique. Mais pas seulement, tous les coups sont permis. C'est une campagne électorale qui est très étonnante. Pour certains même, elle est inquiétante. Les conventions démocrates et républicaines, Gilles, ont eu lieu virtuellement. C'est une campagne qui se joue très largement, voire exclusivement sur les écrans, à coups de spots publicitaires, à coups de batailles sur Twitter et les réseaux sociaux. Que regardez-vous, que retenez-vous de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment ?
Quand on regarde ce qu'était la situation, on l'avait évoqué il y a quelques mois avant l'été, Biden avait gagné les primaires, les primaires démocrates, il les avait gagnées relativement facilement, relativement pacifiquement, et Trump avait perdu son atout principal qui était son bilan économique et il cherchait son message principal. Quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est grosso modo la même, sauf que depuis 8 semaines se sont écoulées, et donc le fait qu'il ne se passe pas grand-chose de déterminant, eh bien, est un avantage pour Biden. Et d'une certaine manière, la situation a un peu empiré pour Donald Trump, au sens où ce que l'on voit avec cette convention, c'est que il n'y a pas le moindre message positif qui soit porté par Donald Trump. Ce n'était pas le cas. Il y a 4 ans, il avait un message positif. On pouvait le partager ou ne pas le partager.
MAGA. Là, Make America Great Again.
Voilà. Là, le seul message, c'est Joe Biden est un communiste. Et la crédibilité quand même de ce message est quand même discutable, y compris pour des Américains. Et dans l'autre sens, la situation est plutôt un peu meilleure pour Joe Biden, au sens où la convention démocrate a été une réussite. Le choix de Kamala Harris s'est passé comme vice-présidente, c'est plutôt bien passé, où il y a quelques ralliements de la part de républicains. Donc, on est un peu dans la même situation et dans une situation qui est un peu meilleure. Mais maintenant, les conventions se terminent, on rentre vraiment dans le cœur de la campagne. Mon intuition est que les sondages vont se resserrer, qu'il va y avoir un petit effet malgré tout de cette convention républicaine, et que rien n'est joué, même s'il y a un avantage important qui demeure. On le voit dans les sondages nationaux, mais on le voit davantage encore dans les sondages dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui vont faire basculer l'élection.
Natacha Polony.
Oui, Gilles a tout à fait raison de souligner dans les swing states, Trump ne réitérera pas ce qu'il avait réussi en 2016, ça semble assez évident. Après, il faut rester extrêmement prudent. Moi, ce qui me frappe, il y a plusieurs choses que je trouve extrêmement frappantes dans ce moment politique. D'abord, en effet, le discours des démocrates et des républicains s'est radicalisé et s'est simplifié au sens le pire de ce terme. C'est-à-dire que, en effet, Donald Trump n'a pas grand-chose à vendre, mais les démocrates, eux, qui avaient un programme, nous l'avons analysé ce programme, nous avons analysé d'ailleurs la façon dont Joe Biden avait fait évoluer son programme en fonction de ce que suggéraient Elizabeth Warren, Bernie Sanders, tout ça a disparu, a été balayé. La convention démocrate s'est passée autour d'un discours contre Donald Trump. C'est peut-être une bonne stratégie étant donné ce qu'incarne actuellement Donald Trump, mais tout de même c'est assez frappant. Deuxième point, les émeutes actuelles vont encore radicaliser les positions. Est-ce que cela va faire basculer quelques personnes d'un côté ou de l'autre, ou est-ce que ça ne va faire que tendre les électorats farouches des démocrates d'un côté et surtout des républicains et de Donald Trump de l'autre? Ça aussi, il va falloir l'observer finement. Enfin, dernier point qui me semble très frappant. La nomination de Kamala Harris me semble un élément extrêmement intéressant. Je lisais il y a quelques Pourquoi jours dans le New York Times un article sur la démographie américaine. Kamala Harris est apparue comme une femme noire qu'on allait mettre comme vice-présidente. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Kamala Harris est issue d'une immigration des années 50-60 qui était une immigration plutôt cultivée, favorisée, venant d'Asie, d'Inde, et elle est de cette elle fait partie de ces futures générations qui vont arriver aujourd'hui dans la vie publique parce que ces enfants issus de cette immigration-là ont plutôt des bonnes situations, sont en train de réussir, se sont parfaitement intégrés et ont envie de participer à la vie publique. Elle incarne ce qui est l'avenir des États-Unis en termes démographiques. Sauf qu'il y a des perdants là-dedans, ce sont justement les Afro-Américains. Parce que, de fait, il n'y a pas eu de président afro-américain aux États-Unis. Barack Obama n'était pas un afro-américain. Kamala Harris n'est pas une afro-américaine. Et cette bascule...
Comment ça, pas afro-américain ?
Il était métis. Il était à moitié kényan. Il n'est pas... Alors, Michelle Obama est afro-américaine et lui permettait de se raccrocher un petit peu et de parler aux afro-américains. Or, aujourd'hui, la crise que vivent les États-Unis, elle est centrée autour de ça. Est-ce qu'enfin les Afro-Américains vont pouvoir sortir d'un marasme social, d'une pauvreté, d'une misère, d'une impression de relégation qu'ils vivent ? C'est tout ce sujet-là me semble extrêmement important parce que c'est en train de gangréner les États-Unis. Or, on voit bien que les États-Unis sont une société multiculturelle. Mais que ce n'est pas forcément au bénéfice des Afro-Américains.
Gilles, avant de passer au débat.
Je crois que Natasha Polony a raison de souligner que dans la Convention démocrate, le programme de Joe Biden a été mis au second plan, au profit des aspects de sa personnalité, pour faire contrepoint à Donald Trump. L'accent a été mis sur sa compassion, sur son empathie, sur le fait que c'était un good guy, un mec bien, par rapport à Donald Trump qui n'a pas marqué la moindre trace d'once de compassion envers les Américains depuis des mois. Donc ça, au détriment du programme, ça c'est vrai. Deuxième point sur le vote afro-américain, le fait que, si l'hypothèse se confirme, que les sondages se resserrent au moins un peu, aura au moins cette vertu de remobiliser ou de continuer à mobiliser un électorat, c'est vrai des Afro-Américains, mais c'est pas vrai, c'est vrai d'un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas enthousiasmés par Joe Biden. Le fait qu'il y ait une incertitude sur l'issue est un facteur de mobilisation. Enfin, dernier point, les émeutes. On ne sait pas combien de temps elles vont durer, ni quel effet elles vont avoir, mais elles peuvent avoir pour Donald Trump une vertu terrible, c'est de remettre la question de la loi et de l'ordre, puisque c'est ça son slogan de cette campagne, au cœur de l'agenda.
La loi et l'ordre, lorsqu'on tire à bout portant dans le dos d'un homme, bien sûr, de quel côté ?
Et évidemment, je ne parle pas de ce qui s'est passé. Là, je parle de ce qui se passe après des émeutes. Il y a eu des nuits d'émeutes dans le Wisconsin qui peuvent s'étendre dans d'autres pays. Des voitures brûlées, des gens qui ont été tués. D'ailleurs, des gens qui ont été tués plutôt par des extrémistes de droite qui étaient au meeting de Donald Trump. Mais ça remet la question de la loi et de l'ordre au cœur de la campagne.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le philosophe des sciences et physicien Étienne Klein.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
La science aide normalement à la rationalité. Et quand la science devient elle-même irrationnelle et utilise les recettes du populisme, c'est-à-dire à faire croire qu'il y a des recettes miracles, à penser qu'effectivement, quand 100 000 personnes signent pour l'usage d'un médicament, on devrait l'utiliser plutôt que de regarder en double aveugle ce qui se passe, etc. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On a vu des dérives individuelles. On n'a jamais vu, me semble-t-il, comme on a vu à ce printemps, une pénétration aussi forte sur les comportements scientifiques.
Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, il était l'invité du grand entretien de France Inter il y a quelques jours, et l'invité du grand face-à-face ce samedi. Les physiciens, philosophes des sciences, voix familière de France Culture, producteur de l'émission La Conversation Scientifique. Il publiait au début de l'été un texte d'intervention dans la collection Tract de Gallimard, texte passionnant intitulé Le goût du vrai. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous vous êtes intéressé très tôt au cours de cette crise aux relations, aux rapports entre discours scientifique et discours politique, aux temporalités différentes, aux temporalités même souvent contradictoires entre le temps de la recherche, l'urgence des décisions politiques et sanitaires. Et vous avez d'ailleurs utilisé une expression qui était très forte, des décisions politiques qu'il fallait prendre dans l'urgence et en méconnaissance de cause. On voulait revenir justement sur cette question avec vous quelques mois après le début de cette crise. Est-ce que ça va mieux, docteur, ou est-ce qu'on peut dire, comme le disait Martin Hirsch, que quelque chose comme un populisme médical, un populisme scientifique s'est durablement installé dans le paysage médiatique ?
Moi, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. On a vu se déployer en temps réel un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est le nom de deux psychologues qui ont étudié cela de près à la fin des années 90. En fait, c'est une idée qu'on trouve déjà chez Aristote, hein, c'est-à-dire que pour savoir qu'on est incompétent, il faut être compétent. C'est-à-dire que spontanément, quand on découvre un sujet, on en parle avec assurance, on a l'impression que c'est simple, on a tous l'impression qu'on pourrait devenir sélectionneur de l'équipe de France de football.
C'est-à-dire moins on connaît un sujet, plus on en parle.
D'assurance. Plus on a d'assurance à en parler. Et c'est en travaillant qu'on se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on croyait et que le fait de gagner en compétence fait voir sa propre incompétence.
Mais est-ce qu'on a gagné en compétence?
Le fait divers qui avait inspiré ce travail de Dunning et Kruger, ils avaient lu dans la presse qu'un jeune homme avait cru comprendre que quand on s'enduisait le visage avec du jus de citron, on devenait invisible pour les caméras. Et il avait eu l'idée géniale de faire un hold-up après s'être enduit le visage de jus de citron. Il s'est fait attraper et Dunning et Kruger se sont demandé mais comment c'est possible d'être aussi bête? Et ils ont étudié sur plusieurs cas, dans les entreprises notamment, comment le fait d'être incompétent donne de l'assurance.
Mais justement, Natacha nous a alerté à de nombreuses reprises sur l'importance de l'éducation à la citoyenneté, la confiance qu'on devait faire aussi aux citoyens. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est aussi bête que ce jeune homme qui s'était enduit le visage de jus de citron
c'est
ou
pas
est-ce
une
qu'on a
de
progressé
bêtise.
Depuis quelques mois?
C'est pas une question de bêtise. Moi, ce que j'ai découvert en suivant de près l'évolution des interventions publiques autour du Covid, c'est le fait que on a l'impression que quand j'étais plus jeune et que je faisais de la vulgarisation, je me disais il faut, avant de parler à un public divers, travailler un sujet à fond, être capable de comprendre ce qu'il signifie en profondeur, de le clarifier. Et une fois qu'il est clarifié, on peut l'exprimer d'une façon qui sera comprise par tous, sans trop de déformation.
D'accord.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une idée complètement naïve, et qu'en réalité, la réception est victime de toutes sortes de biais cognitifs dont on n'a pas conscience quand on fait de la vulgarisation. Et ces biais cognitifs font que entre les messages émis et la façon dont ils sont reçus, il y a toutes sortes de déformations, parfois de contradictions, qui font qu'on n'est jamais bien compris.
Et on va avoir l'occasion d'en parler justement de ces biais cognitifs. Vous en aviez identifié quelques-uns, dont certains sont assez étonnants et qui résonnent évidemment. On a l'impression de se regarder dans un miroir. Natacha Polony.
Oui, je pense qu'il faut absolument lire ce petit texte de la collection Tract, Le goût du vrai, parce qu'il y a non seulement des réflexions j'allais dire immédiate face à la pandémie, mais il y a surtout une réflexion absolument majeure sur le rapport que nous pouvons avoir, même d'un point de vue politique au sens le plus noble du terme, à la vérité. Et quelle est la place du vrai dans une société comme la nôtre? Et je trouve toute la réflexion que vous menez sur la question de savoir si nous avons perdu le plaisir du vrai absolument passionnante. Tout cela a fait écho à tout le travail que j'ai pu faire en tant que journaliste sur les questions d'éducation, parce que justement, la question du savoir à l'école me semblait absolument cruciale. J'ai vu pendant des années organiser dans les classes des débats citoyens et tout ce genre de choses qui incitaient les élèves surtout à donner leur opinion. Et pendant des années, j'ai vu quelques spécialistes bien solitaires qui alertaient sur le fait qu'on était en train, en fait, d'aplanir la différence entre savoir et opinion, et que la conséquence, et je l'ai vu sur des étudiants, c'est tout simplement qu'après tout, ce que dit le professeur n'est rien d'autre qu'une opinion comme une autre. Et j'ai vu beaucoup d'étudiants dire « Alors professeur, oui, c'est votre opinion, moi j'ai la mienne ». C'est-à-dire qu'on a petit à petit détruit le statut même du savoir, des savoirs universels, de la vérité. Et je pense que nous en vivons les conséquences, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des citoyens qui sont les produits de ce rapport à la vérité.
Alors ça, c'est un long débat, mais en fait, là où je vous rejoins, c'est que, enfin, en réalité, nous avons tous beaucoup de connaissances, y compris des connaissances scientifiques.
Oui.
Je veux dire, en France, tout le monde sait que la Terre est ronde, tout le monde sait que l'atome existe. Tout le monde sait que l'univers est en expansion. Tout le monde sait que les espèces évoluent. Enfin, je pense. Enfin, beaucoup de gens
savent. Oui, non, vous avez
maintenant,
une grande confiance.
Maintenant, je pense que nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un, oui, la Terre est ronde, mais au fait, comment est-ce qu'on l'a su? À quelle époque?
Ah oui.
Quels étaient les arguments qui ont démontré que la Terre est ronde, etc. Là, on rencontre une sorte de silence éloquent. Et en réalité, si on mettait quelqu'un qui ne sait pas comment on a démontré que la Terre est ronde devant un platiste qui a 50 000 arguments qui démontrent que la Terre est plate,
il est possible
qu'il perde la bataille.
Ah oui, c'est tout à fait juste.
Et du coup, je pense que nous devons améliorer la connaissance que nous avons de nos connaissances. Les scientifiques ne sont pas les mieux placés. Moi, je connais à peu près... Je connais certaines choses en physique. Mais si vous me demandiez comme ça à brûle pour point, mais qu'est-ce que c'est qu'un OGM? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Je suis pas sûr que je vous donnerai la bonne réponse. Et ce qui, moi, me fascine, c'est la décorrélation qu'on observe entre le militantisme et la compétence.
Expliquez-nous ça.
Ben, je veux dire par là que tout le monde a une opinion sur la chloroquine, tout le monde a une opinion sur le nucléaire, tout le monde a une opinion sur les biotechnologies, etc. Pour ou contre?
Bien sûr.
On peut être pour le nucléaire sans rien savoir de ce qu'on met dans un réacteur. On peut être contre le nucléaire sans rien savoir de ce qu'on met dans un réacteur. Et comment est-ce qu'on peut être militant pour une cause sans s'intéresser aux arguments sous-jacents à cette cause? Et ça me fascine.
Gilles Finkelstein.
Vous avez dit tout le monde sait que la Terre est ronde et vous écrivez dans votre livre qu'il y a des vérités que nous ne discutons guère parce que nous les ignorons, parce qu'elles nous sont parfaitement indifférentes ou parce qu'elles ne menacent aucun pouvoir installé, aucun intérêt politique ou religieux. Il y a justement un courant qui s'appelle les platistes, vous les avez évoqués, qui prétendent que la Terre est plate. Et un peu plus loin dans votre livre, vous faites part d'une expérience dans laquelle un professeur, dans une conférence que vous donniez, disait que la Terre était ronde jusqu'à ce que l'on démontre le contraire.
Et vous dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en plus le cadre est solennel.
Et vous dites vous-même que vous êtes resté un peu pantois et un peu désarmé. Et donc ma question est, parce qu'en l'occurrence je ne sais pas quel est l'intérêt qu'il y a, hein. Vous dites il y a des vérités que nous ne discutons guère. En l'occurrence, je ne sais pas quel est l'intérêt qu'il y a à défendre que la Terre n'est pas ronde. Donc pourquoi y a-t-il malgré tout ces vérités-là que nous discutons, et comment fait-on pour les récuser, puisque vous avez eu le temps depuis cette conférence d'y réfléchir et d'y revenir?
Étienne Klein,
vous avez fait allusion à un grand débat qui a eu lieu organisé par France Culture, donc grand amphi de la Sorbonne. La question était celle-ci, à savoir quel est le lien qu'il y a entre la science et la vérité. Et on était trois intervenants, et une intervenante, professeure émérite, a dit, alors que je lui objectais qu'il y a des vérités de science qui sont bien acquises et qui seront sans doute
indiscutables,
pas rediscutées, même si la façon de les dire peut changer au cours du temps. Par exemple, si je dis aujourd'hui « la Terre tourne autour du Soleil », j'ai l'impression de dire une vérité scientifique. En fait, je la dis mal, parce que cette phrase sous-entend que le Soleil est le centre. Or, la relativité générale d'Einstein nous a montré que tous les référentiels sont équivalents, et donc il n'y a aucun référentiel dont je puisse dire qu'il a des particularités que n'ont pas les autres. Et donc il n'y en a aucun que je puisse mettre en avant, et donc la formulation de cette vérité devrait être remaniée pour tenir compte de l'évolution des connaissances. Mais là, en l'occurrence, cette professeure avait dit, alors que je lui disais que la Terre était ronde, et que ça ne serait pas remis en cause avant longtemps, en tout cas pas scientifiquement, m'avait dit, on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui démontrera qu'elle est plate. Et c'est le type d'argument qui m'a saisi, si vous voulez. Einstein, ça veut dire un argument génial, ou théorique.
Oui.
On n'a pas l'argument théorique qui nous permettrait de considérer qu'elle est plate. Et là, je me suis dit, mais quand on pense de cette façon, qu'est-ce qu'on peut enseigner aux étudiants?
C'est-à-dire que tout est relatif.
C'est-à-dire, si on peut défendre un scepticisme radical, mais à condition que ce scepticisme soit cohérent et qu'il s'applique à tout. Or là, on a l'impression qu'il est sectoriel.
Il est sectoriel, il a été très virulent autour de l'hydroxychloroquine par exemple. Un cas d'école, avant de donner la parole à Natacha, c'était cette semaine, on a vu à Marseille la maire Michèle Rubirola, Martine Vassal, la présidente de la métropole, et le professeur Didier Raoult qui se sont réunis pour faire front contre, et au même moment où parlait le ministre de la Santé Olivier Véran. C'était assez étonnant de voir là pour le coup s'affronter non plus seulement des scientifiques et des politiques, mais un scientifique, des politiques contre le pouvoir exécutif, sans qu'on sache exactement qui de nouveau a raison quant à la décision ou la nécessité de prendre de nouvelles mesures sanitaires dans les Bouches-du-Rhône, à Paris ou ailleurs.
Ne me posez pas trop de questions sur l'actualité, je descends de mes montagnes, j'ai pas lu un journal depuis 3 semaines. Et je ne voudrais pas verser dans l'ultra-crépidarianisme que je dénonce dans le livre.
Non, mais ce que je veux dire en l'occurrence, alors définition d'ailleurs de ce terme barbare...
Ah, c'est un terme dérivé d'une locution latine qui dit que le cordonnier ne doit pas trop parler au-delà de la chaussure.
Ça, c'est
cordonnier pas plus haut que le pied.
Cordonnier pas plus haut que le pied.
C'est l'expression classique.
C'est très très bien dit.
Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est une sorte d'amalgame entre science, La science, c'est une sorte de pouvoir autoritaire.
Oui.
Le pouvoir, c'est l'élite. L'élite, c'est Paris, etc. Enfin, on connaît le mécanisme de ces associations absurdes. Einstein n'était pas un dictateur.
Non, voilà. Loin de là.
Mais justement, Natasha, je pense que la question du pouvoir est absolument centrale, en fait, dans ce problème-là, et la question démocratique. Parce qu'en fait, le principe démocratique, c'est l'idée que tout être humain est doué de raison, que nous pouvons donc tous être des citoyens usant de notre libre arbitre pour décider ensemble. Encore faut-il que
même
nous
si
ayons...
nous sommes incompétents.
Exactement. Même si nous sommes incompétents, mais avec l'idée, et c'est là le cœur, par exemple, de tout ce qu'écrit Condorcet sur l'instruction publique, c'est l'idée que un peuple qui va être éduqué ne sera peut-être pas compétent dans un domaine, mais aura les compétences suffisantes pour juger à peu près correctement à partir des discours d'experts qui lui seront tenus. C'est à peu près, grosso modo, l'idée. Or, tout le problème, c'est d'abord de savoir quelles sont les compétences nécessaires à chacun pour justement pouvoir comprendre ce que ceux qui savent diront et pouvoir donc arbitrer. Deuxièmement, comment on fait acquérir ces compétences? Et je parlais tout à l'heure d'école, j'ai entendu pendant des décennies des professeurs me dire « mais le but de l'école, c'est d'enseigner l'esprit critique ». Or, il me semble qu'avant cela, le but de l'école, c'est d'enseigner le goût du vrai. Et que c'est parce qu'on a le goût du vrai qu'on va acquérir un esprit critique.
Bah, l'esprit critique, c'est exactement comme le cholestérol.
Il y a le bon et le mauvais.
Parce que les platistes se réclament de l'esprit critique.
Voilà.
Et ceux qui contestent la théorie de l'évolution se réclament de l'esprit critique. Donc il faut faire attention avec cette notion. Maintenant, il y a un mot qu'il faut distinguer d'un autre. Vous parlez de démocratie. Il faut distinguer entre la République et la démocratie.
En effet.
C'est-à-dire que la science, elle est républicaine par essence.
Exactement.
Autrement dit, dans une République, elle a vocation à diffuser sans rencontrer d'obstacles. Par contre, elle n'est pas démocratique. On ne vote pas pour savoir si la théorie de la relativité est juste ou pas.
C'est ce que vous dites fort justement dans votre texte, à savoir qu'il faut que la science soit, on dirait, transcendante, c'est-à-dire...
Mais je pense que justement cette pédagogie que vous réclamez, et que j'essaie moi de mettre en musique, elle est devenue impossible parce que la pédagogie de la science est victime d'une crise de la patience. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais le temps d'expliquer ce par quoi un résultat scientifique est devenu un résultat scientifique. Et donc si on vient l'expliquer en 3 minutes, on l'assène en donnant l'impression que c'est un argument d'autorité qu'on convoque,
oui.
Alors qu'en fait il y a toute une histoire derrière qui fait que ce résultat n'est pas aussi arbitraire que ce que les relativistes voudraient nous faire croire.
Gilles Finkelstein.
Je vais revenir sur cette question de la démocratie, sur 2 points. Le premier, c'est, vous dites, il faut qu'il y ait un partage entre les responsables politiques et les scientifiques, un bon partage des tâches, et que c'est notamment aux responsables politiques de tenir la barre et de fixer le cap, je vous cite. Est-ce que vous avez le sentiment que, dans la crise que nous venons de vivre, ce partage a fini par être bien trouvé? Est-ce que la place des scientifiques a été la bonne? Est-ce qu'ils sont allés, à certains moments, trop loin? Est-ce que les responsables politiques se sont trop appuyés sur une partie du savoir? C'est ma première question. Et la deuxième, pour prolonger ce que dit Natacha, c'est quelle est la place des citoyens dans une situation comme celle-là, dans laquelle il est impossible de ne pas s'appuyer sur les citoyens, puisque le fait qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent aux décisions qui sont prises est un élément absolument déterminant. Et en même temps, avec ce risque du populisme scientifique, votre précédent tract dans la même collection était « Je ne suis pas médecin, mais... » phrase que...
Non, mais je. Mais le je est important, mais, parce qu'il faut une sacrée dose de narcissique.
Voilà, mais je, phrase que, je crois, beaucoup de Français, peut-être certains d'entre nous, à un moment ou un autre, avons succombé.
Bon, je vais commencer par la deuxième partie de votre question, la place du citoyen. C'est ambigu parce que, comme le disait Einstein, il n'y a pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est à la connaissance de ce qui doit être. Autrement dit, la science, je parle là de la physique, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, elle vous dit ce qu'il est possible de faire. Vous pouvez faire des réacteurs nucléaires, vous pouvez faire des OGM, vous pouvez faire des nanotechnologies, mais elle ne dit pas si vous devez le faire. Donc la question, est-ce qu'on peut le faire? Ça, c'est pas un enjeu démocratique, c'est pas aux citoyens de décider si E égale MC2 est une formule juste ou pas. Par contre, les applications de cette connaissance devraient, en démocratie, être discutées. Et je ne pense pas qu'on ait trouvé un cadre permettant d'organiser ce type de discussion. pour revenir à la première partie de votre question, il se trouve que moi j'étais au Chili au début du mois de mars, je suis arrivé en France que le 26 mars, et donc la France était en confinement, et c'est là que j'ai vu des tweets « je ne suis pas médecin, mais je » qui m'ont affolé, puisque ces personnages politiques parfois importants disaient « je suis pas compétent », c'était honnête, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, penser de tel ou tel traitement. J'ai trouvé ça complètement absurde. Et le 28 mars, il y a une conférence de presse.
Édouard Philippe, avec Premier ministre, Philippe,
le ministre Olivier Véran. Et puis des scientifiques. Et il y avait une sorte d'équilibre là qui s'installait. C'est un peu la panique quand même, parce qu'on ne savait rien de ce virus. Et les scientifiques que j'ai entendus là disaient ce qu'ils savaient, mais aussi ce qu'ils ne savaient pas.
Et ça vous a soulagé?
Ça m'a soulagé, oui.
Ça vous a soulagé, oui, alors que justement, beaucoup étaient dans un état de perplexité, de perte de repères, oui.
Ça m'a soulagé que des gens disent « je ne sais pas ». Et je me suis dit « tiens, c'est une occasion unique qui nous est donnée là, historique, de pouvoir expliquer en temps réel ce que c'est qu'une démarche scientifique. Comment est-ce qu'on établit un protocole de recherche? C'est quoi un essai en double aveugle? C'est quoi l'effet placebo? Comment on utilise les statistiques ?» Et pendant une semaine, j'y ai vraiment cru. Je me suis dit, tiens, on a l'occasion de faire une pédagogie d'enfer comme jamais on a pu faire. Et j'ai assez vite déchanté, de sorte qu'aujourd'hui, dans l'opinion, ce qui reste, c'est l'idée que les scientifiques sont des gens qui sont pas d'accord entre eux.
Oui.
Alors
oui.
Que, au contraire, la démarche scientifique, qui prend du temps, elle aboutit en général à ce qu'on parvienne, grâce à des engueulades et des protocoles, à faire parler un bout du réel. Et à la fin, on ne s'engueule plus. Et c'est ce moment-là qu'on a raté.
Oui, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent justement troubler. Peut-être déjà que le temps médiatique par rapport au temps scientifique, évidemment, ne coïncide pas, et que le rôle des médias, c'est la vieille analyse bourdieusienne sur le fait que la télévision dicte sa loi aux autres champs parce que celui qui passe bien à la télévision acquiert une notoriété qui lui donne un aura dans son champ de compétences, ce qui est problématique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous disiez, ce n'est pas à la science de décider ce qui doit être fait. Le problème est de savoir selon quelle modalité est décidé ce qui doit être fait. Et quand la science dépend beaucoup du marché, je pense là, par exemple, aux biotechnologies, dont on voit bien qu'aux États-Unis, elles sont devenues un marché absolument gigantesque, qui dicte en fait ce qui doit être fait, est-ce que ça ne vient pas troubler les choses? Vous dites dans votre livre tout à fait justement que il y a des formes de domination et que quand, en gros, quand une vérité scientifique ne gêne pas les dominations, ça ne pose pas de problème. Quand ça vient gêner certains puissants, c'est autre chose. Mais du coup, qui finance? En
mais
gros, c'est peut-être ça aussi la question.
Etienne Klein. Mais dire que ce qu'on dit dépend de ce qu'on reçoit comme financement ou de l'appartenance institutionnelle qui est la sienne. Moi, je travaille au CEA, donc j'ai cru comprendre que j'avais plus le droit de parler de la radioactivité parce que ma définition de la radioactivité serait liée au fait que j'appartiens au CEA. Je pense que non,
d'accord.
Mais bon, je me tais là-dessus.
Non, vous alors êtes quand même un grand spécialiste. Non, mais quand je parle du temps,
quand je parle du temps, on m'embête pas parce que on pense que ce que je raconte sur le temps n'a pas vraiment d'intérêt, ni ne représente d'enjeux colossaux. Et donc, évidemment, c'est très confus. Le point important, c'est qu'il y a aucune raison de faire confiance aux scientifiques, à tel ou tel scientifique. Moi, j'ai pas confiance dans les scientifiques quand ils parlent individuellement. Par contre, j'ai confiance dans la science, oui, en tant que procédure qui, à la fin, converge. Et dans l'histoire, il y a énormément de cas où sont apparus des bulles, des errements, des fausses nouvelles. Les avions renifleurs, ça c'était de la fraude, la mémoire de l'eau, les rayons N au début du XXe siècle, c'est des histoires qui ont enflammé les esprits, les gens y ont cru, mais à la fin, ces baudruches ont été dégonflées. Et moi, ce dans quoi j'ai confiance, c'est dans le fait qu'à la fin, on sait ce qui tient et ce qui ne tient pas.
Je vais donner la parole à Gilles dans une seconde, mais qu'est-ce que c'est que l'ipsédixitisme dans ces cas-là? C'est un biais cognitif, on y cède très souvent, très régulièrement, on choisit de faire confiance à un tel ou un tel.
C'est une locution latine encore, ipsé, c'est lui le maître l'a dit, donc j'y crois et je n'exerce plus mon esprit critique pour le coup.
Donc quand on est
et en version dégradée, c'est je l'ai lu et je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Et ce qui m'a décidé à écrire ce tract, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le 5 avril 2020, alors qu'aucune étude n'avait vraiment convergé par manque de temps précisément, il y a eu un sondage dans le Parisien, on demandait aux Français est-ce que tel médicament dont j'ai oublié le nom marche ou pas contre le Covid. La Covid. Et 59% des Français ont répondu oui, 21% ont répondu non. Non, 20% ont répondu non, et 21% ont répondu je ne sais pas. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. 80% des gens déclarent savoir répondre à une question à laquelle personne sur Terre ne sait répondre.
Le problème, là, c'est déjà celui qui pose la question.
Là, je me suis dit, l'ipsédixitisme marche à fond les ballons.
Gilles Finkelstein.
Vous avez dit, en rentrant du Chili, vous avez eu une semaine d'optimisme.
D'exaltation.
Peut-être même d'exaltation. Je crois que la culture scientifique a plutôt progressé pendant cette période. Et pas pendant une semaine. Je pense que globalement, les Français se sont
Étienne Klein, qui est...
se sont plongés et ont beaucoup plus de connaissances qu'ils n'en avaient avant.
Et ça, c'est l'effet de Dunning-Kruger.
De la même manière, je pense, pour revenir à l'épisode que vous avez évoqué de cette conférence de presse dans laquelle les scientifiques disaient « ça on sait pas », que c'est un élément qui n'a pas inquiété les Français, mais qui les a rassurés. Le fait d'avoir un rapport à la vérité sur les connaissances était plutôt un élément de réassurance, et le fait qu'ils aient perçu à tort ou à raison que la posture du président de la République et du Premier ministre sur ce sujet-là était un peu différente, était une des raisons de la popularité du Premier ministre.
Bon, il a été viré, il a été remplacé par Jean Castex, et le modèle de cette conférence de presse n'a plus été suivi. Bon,
donc, je crois que la culture scientifique a plutôt progressé. En revanche, la confiance dans la science a peut-être régressé dans cette période. Pour des raisons que vous avez évoquées, le fait que les chercheurs, les scientifiques se soient affrontés publiquement, que les revues scientifiques, vous en parlez aussi, aient publié des choses qui n'étaient pas rigoureuses, mais plus fondamentalement, et c'est là-dessus que vous avez vous interrogez, parce que l'esprit scientifique, ce à quoi vous défendez le plus, le fait que après ces engueulades, que collectivement les méthodes permettent de converger, que cet esprit scientifique, parce que le temps a manqué, a été mis à mal. Comment on gère cette question du temps quand il y a urgence ?
Étienne Klein.
Moi, j'ai entendu un jour un scientifique éminent dire « La méthode en science, ça fait perdre du temps. » Et ça m'a fait tomber de ma chaise, d'autant plus que j'étais assis à ce moment-là.
Comme la démocratie.
Autrement dit, ce qui menace le plus l'esprit scientifique, c'est l'urgence. Et quand il y a une crise comme celle-là, on ne comprend pas tout. Ce virus, je le rappelle, était inconnu. Donc il a des comportements qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas complètement déterminer. Eh bien, il faut savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas, et puis dans cette incertitude, prendre des décisions. Et vous me parliez tout à l'heure du rôle des scientifiques dans ce genre de situation de crise. Alain Supiot, qui est professeur au Collège de France, juriste, dit c'est un rôle de service de phare et balise. Phare, le phare qui éclaire, on doit éclairer la puissance publique en lui disant voilà ce qu'on sait, et puis balise parce qu'il faut signaler quelles sont les incertitudes, les périls, les risques associés à nos
connaissances. C'est pour ça qu'il y a eu un conseil scientifique qui a été créé.
Ce conseil scientifique, dans la phase où l'épidémie est à son niveau le plus haut, il faut lui donner du pouvoir. Mais après, il y a évidemment d'autres critères qui entrent en compte. La santé psychique des gens confinés, l'économie, enfin, vous connaissez tout cela par cœur. Et là, c'est d'autres critères qui viennent s'ajouter aux recommandations du Conseil scientifique. Et je trouve que ça a été à peu près bien géré, puisque le Conseil scientifique n'est plus en première ligne, et c'est d'autres critères qui sont pris en compte.
Natacha Polony.
Je suis un peu embêtée parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, et j'ai deux questions, donc vous allez choisir laquelle vous préférez. La première, c'est, avez-vous été inquiet par cette étude de la revue The Lancet qui tout à coup a surgi pour justement expliquer que le fameux médicament l'hydroxychloroquine ne marchait pas et qui a été ensuite invalidé parce que les méthodes scientifiques de cette étude étaient tout à fait contestables et donc ça a déstabilisé là aussi disons l'idée qu'on pouvait se faire de la validité de ces revues. Mais ma deuxième question est très différente, et elle est à mon avis aussi importante. Est-ce que ça vous inquiète de voir aux États-Unis des travaux sociologiques qui réfléchissent pour savoir si les mathématiques sont racistes parce que la rationalité serait mise en avant par la civilisation occidentale, etc.
Je vais répondre aux deux en vitesse. L'article du Lancet, c'est une fraude.
Oui.
Il a fallu 3 jours pour voir que c'est une fraude. L'article a été retiré. Donc le dire c'est un scandale, ça montre au contraire que quand c'est un article scientifique, s'il y a des erreurs, s'il y a de la fraude, c'est vite vu. Qui, lorsque vous avez un invité à vos émissions, se dit quelque chose de faux, revient pour dire « je me suis trompé ».
Ça arrive jamais.
J'arrive jamais, voilà. Ouais. Bon, là, ils ont dit « on s'est trompé ». Ça, c'est un critère scientifique. Quand quelqu'un dit « le coronavirus ne tuera pas plus que les accidents de trottinette », il a dit une bêtise, il pourrait revenir nous dire « j'ai dit une bêtise ». Il ne le fait pas. Bon. Maintenant, l'exemple que vous donnez sur les mathématiques qui serait raciste, c'est une tentative qu'on voit aux États-Unis et au Canada de décolonisation de l'histoire de la physique, parce qu'on remarque que Newton était blanc, mâle, Boltzmann aussi, Einstein aussi, et que peut-être ça crée un biais dans la valeur de vérité des théories scientifiques qu'ils ont produites.
Ça n'empêche pas les pommes de tomber des arbres.
Non, voilà.
Oui, la loi de la gravitation universelle.
Alors vous ne pouvez pas dire que
pas
tous les résultats, tous les résultats scientifiques sont des constructions sociales. J'ai une discussion, je termine là-dessus, avec un grand relativiste qui expliquait qu'en effet, toutes les résultats des sciences sont des constructions sociales, n'ont pas de contrepartie dans le réel. J'ai fait un débat avec lui qui a été viril mais correct. Oui. On a pris l'avion ensemble, on était côte à côte par les hasards des réservations. Et je lui dis, mais vous êtes quand même très courageux. Il m'a dit, bah oui, quand on a des convictions, on ne doit pas hésiter à les dire en public. Je lui dis, non, vous êtes courageux parce que vous prenez l'avion. Et là, je vous rappelle qu'on est en train de voler grâce, si j'en crois à ce que vous venez de dire, à des constructions sociales. Et ce vol devient une entreprise très dangereuse.
Gilles Finkelstein.
L'avant-dernier chapitre de ce petit tract s'appelle « Prendre enfin acte de ce que nous savons ». Et vous dites, nous allons enfin devoir prendre vraiment au sérieux ce que nous savons depuis longtemps, mais faisions jusqu'à aujourd'hui semblant de ne pas croire. Et vous pensez, vous évoquez même directement la question du réchauffement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut anticiper de ce que va être l'effet de la crise du Covid? Parce que on peut à la fois dire ça va être un élément de révélateur, on voit ce que ça en coûte de ne pas anticiper des crises, a fortiori quand c'est une crise dont on sait qu'elle va arriver, et puis ça peut avoir exactement l'effet inverse, c'est que les priorités, parce que la crise économique qui en est la conséquence du confinement est tellement forte que la priorité climatique va redescendre.
Étienne Klein.
Niels Bohr, grand physicien, disait il est difficile de faire des prédictions, surtout quand elle concerne l'avenir. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera pour la suite. D'ailleurs, j'ai oublié votre question.
Quel est l'effet du Covid sur le réchauffement climatique?
Alors moi, il y a un effet qui a été assez massif et qu'on a vu pendant le confinement, c'est que il y a quelques mois, de quoi parlait-on? De l'effondrement, de la fin du monde.
Oui.
On donnait beaucoup la parole aux collapsologues. Et puis quand la crise est arrivée, la catastrophe, on pourrait dire. On n'a plus parlé de catastrophe. On a inventé l'idée que le monde de demain serait différent du monde d'hier. Autrement dit, il y a eu une sorte de renversement hallucinant de la flèche du temps, au sens où l'idée d'un monde de demain a détrôné l'idée de la fin du monde.
Et elle est née de la crise.
Et voilà, on était dans la catastrophe et ça a éliminé en quelque sorte la catastrophe elle-même. Et on s'est projeté dans le futur en disant, on va tenir compte des leçons de cette crise. Des gens nous expliquaient que bientôt on allait se libérer des soucis liés à la matérialité du corps grâce au post-humanisme. Et là, ce virus nous a ramené à notre socle biologique. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même des choses qu'on doit intégrer dans nos comportements et le monde de demain sera forcément différent. J'ai l'impression qu'on en parle moins aujourd'hui.
Oui.
Mais simplement, je pense que les stratagèmes par lesquels, pendant longtemps, on a trouvé le moyen de ne pas croire ce que nous savions, vous parlez du changement climatique, mes collègues climatologues, ils disent la même chose depuis 40 ans. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de nier qu'ils avaient raison.
Il reste très peu de temps,
Natacha. Non seulement ils avaient raison, mais il arrive maintenant à la conscience même de celui qui ne connaît pas la science que la chute de la biodiversité ne peut pas être niée. Le problème est que on se retrouve avec des gens qui opposent d'autres données scientifiques. Par exemple, qu'il n'est pas prouvable que ce soit réellement le glyphosate qui tue les abeilles ou qui donne des cancers. La question du principe de précaution doit-elle être au cœur des choix politiques? Et quel type de principe de précaution?
Étienne Klein.
J'ai peu de temps, donc je vais...
Oui.
Qu'est-ce que je peux dire?
Malheureusement.
Disons, le principe de précaution, il a deux déclinaisons dans le champ médiatique et même dans la société tout entière. C'est à la fois un principe qui vise à diminuer les risques par des études. On essaie de mieux comprendre certains effets pour voir s'ils sont tolérables ou pas. Donc, c'est un principe qui incite à faire de la recherche pour répondre mieux à des questions qui restent ambiguës ou incertaines. Mais il a aussi une déclinaison qui est de gérer l'anxiété et de prendre des mesures pour diminuer l'anxiété. Et ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, mais c'est utile aussi?
Je sais pas, parce que réduire un danger, c'est pas la même chose que réduire la peur qui lui est associée.
C'est passionnant en tout cas. Merci Étienne Klein. Le goût du vrai, donc, c'est votre dernier texte disponible dans la collection Tract de Gallimard. Et puis on vous retrouve évidemment pour la conversation scientifique sur France Culture. Natacha et Gilles, merci à tous les deux. À samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Marie Mériel, à la technique, Julien Dumont. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec Jean-Luc Mélenchon.